Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, c'est la dernière émission de la saison et ça on en est à peu près sûr, on sait que Transformers ne sera pas le film de la semaine, le film à voir de la semaine, donc on ne le chroniquera pas aujourd'hui, en revanche on entendra ça.
S'il y avait une mèche de cheveux qui sortait, vous étiez arrêté par les miliciens et surtout les miliciennes.
Alors, pourquoi on entend ça ? Eh bien, c'est parce qu'on va parler du film de Swabadi, Marine.
Oui, Chercher la femme, une comédie de mœurs plutôt réussie pour ma part. Et du coup, on écoutera Félix Moati, Camélia Jordana et donc Swabadi au micro de Cinérama. Et moi, je parlerai également de Grand Froid, une comédie française aussi assez surprenante et plutôt pas mal du tout.
Et qui sort cette fin juin. Toi aussi, tu as un film qui sort fin juin.
Oui, The Last Girl de Colm McCarthy, un film d'horreur. Et puis un autre film d'horreur dans un genre assez similaire finalement, It Comes at Night.
Et puis moi j'ai vu un documentaire plutôt, c'est Visage Village, présenté à Cannes, il sort le 28 juin. C'est celui d'Agnès Varda et de JR, qui n'est pas le personnage de Dallas évidemment, mais plutôt le street artiste. Et c'est ainsi que commence la dernière de Cinérama.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Je pense que Will et moi, on devrait être les seuls à sortir pendant quelques temps. On sait pas ce qui a infecté cette année. On sait rien, en fait. Personne n'a touché, donc à mon avis, on risque rien, non ?
Je suis sûr et certain.
T'as ouvert la porte, mais c'est tout, t'es pas entré.
J'y ai pas touché à la porte.
T'as pas... quoi ?
Elle était déjà ouverte.
Quoi ? La porte était déjà ouverte quand t'es arrivé ?
Ouais.
Alors qui l'a ouverte ?
Mais c'est insoutenable.
Suspense, qu'y a-t-il derrière la porte ? Oui. Alors, hasard du calendrier, sans doute, mais deux films d'infectés sortent ce mois-ci, traités sous des angles radicalement différents. Alors, si The Last Girl, dont je vais parler tout à l'heure, s'apparente au pur trip zombiesque sur fond post-apocalyptique, It Comes at Night se positionne comme un pur film de survival domestique. Alors, ce qui est en jeu dans le second long-métrage de Trey Howard Schultz, c'est bien la famille et tous les sacrifices qu'on est prêt à endurer pour elle. Alors, l'ouverture est à ce titre exemplaire, hein, plongeant le spectateur dans un climat d'une noirceur peu commune. Les images très fortes parlent d'elles-mêmes. Un vieil homme est atteint d'un virus, son beau-fils Paul doit se charger de son cas. Il le supprime et se débarrasse du corps sous les yeux de toute la famille. La survie de Paul, sa femme Sarah et de son fils Travis est à préserver coûte que coûte, quitte à éliminer les siens. Alors, reclus dans une cabane modeste en pleine forêt, aménagée contre le monde extérieur, il se protège face à une menace de propagation d'un virus dont on ne connaîtra jamais la nature. Alors, au fond, le sujet n'est pas le comment et le pourquoi, ce qui augmente le réalisme de la situation. Hein. Il règne une ambiance un peu viciée, oppressante, filmée selon le point de vue unique du jeune Travis, ce qui rajoute encore de la cohérence à cette œuvre qui ne cherche jamais à plaire. Mais voilà que débarque un intrus qui vient bouleverser leur fragile équilibre. Cet inconnu aux abois va ramener sa femme et son fils à l'intérieur de la demeure. Les rapports entre les personnages vont alterner entre suspicion et confiance, ce qui va créer un véritable suspense. Alors l'homme est un loup pour l'homme et autrui un danger. Alors It Comes at Night déplace rapidement les enjeux classiques du survival. La menace n'est pas tant à l'extérieur, tapis dans cette forêt envahissante, rappelant étrangement d'ailleurs celle de The Witch, petit film d'horreur à sensation sorti l'an dernier à la même époque. Au contraire, l'espace se resserre, la petite maison devient alors ce lieu d'angoisse où tout va basculer dans l'horreur. Le Schultz filme son histoire glauque avec une réelle puissance cinématographique. La tension distillée par la précision des cadrages, les lents travelling et les éclairages sombres est palpable. Il règne une ambiance de fin du monde parfaitement retranscrite sur le plan graphique. Bon, tout n'est pas parfait dans ce film très prometteur. Hein. Le cinéaste a tendance à se laisser griser par sa maîtrise de la mise en scène, souvent trop voyante. Il y a parfois quelque chose de poseur dans la composition des plans, des mouvements de caméra ultra signifiants. d'autant que le scénario, s'appuyant sur un sous-texte politique édifiant, laisse à la fois trop de questions sans réponse et s'adonne à une métaphore sur la monstruosité de la famille un peu trop radicale. Alors ce nihilisme limite caricatural n'en reste pas moins sincère, notamment parce que j'ai appris que le père du réalisateur est décédé dans d'atroces souffrances, et ça fait écho à la première séance en fait, cette première séquence qui était un peu, on va dire, la matrice, l'origine du film. Alors il y a une part autobiographique hein, donc, de la part du réalisateur dans ce film d'horreur viscéral et désenchanté, tenu par l'interprétation puissante de Joel Edgerton, personnage de redneck intellectuel, ambigu sur le plan moral. C'était un professeur d'histoire géo et qui apparaît plus comme une brute en fait, à l'écran. C'est assez curieux. Enfin, il alterne entre les deux types de personnages. Alors le dernier quart d'heure, très immersif, reste un moment de cinéma dérangeant, à la violence jamais gratuite. Le prix à payer pour protéger les siens est si excessif que l'on finit par perdre le peu d'humanité qui reste en nous. Et le cinéaste boucle son film dans un climat de brutalité, évoquant furieusement un classique de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche. Bref, un bon film, vraiment un bon film d'horreur, vu le peu de... Quoi qu'il y en ait eu quelques-uns ces temps-ci, en même temps.
Que tu as baptisé, donc, survival domestique, ça veut dire qu'on reste autour de la maison, voire dedans. Dedans, voire dans la cuisine.
Et au cœur de la famille, en fait, hein, puisque c'est vraiment le sujet, la famille, qui, aux États-Unis, bizarrement, dans beaucoup de films, prend comme ça une ampleur inquiétante. Et on l'a vu récemment dans le dernier Shyamalan, notamment The Visit. Et quelques films ont traité un peu les films d'horreur sous cet angle-là, de la famille un peu monstrueuse.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
J'ai voulu faire des portraits de J.R. Mais j'ai vite compris qu'il ne voulait pas enlever ses lunettes. J'ai repensé à Jean-Luc Godard, avec ses lunettes noires vissées sur la tête. J'avais 33 ans.
Maintenant, c'est moi qui ai 33 ans. Et toi, je dirais plutôt que tu as 88 printemps.
Oui, ça va. Tu sais mon âge, ça va.
Agnès Varda n'en a pas fini avec le cinéma et les images. Elle en a fini depuis longtemps avec les longs-métrages, mais a toujours poursuivi son chemin avec des documentaires. Et de chemin, il est vraiment question dans Visage, Village, un road movie co-réalisé avec l'artiste JR qui nous emmène sur les routes de France, essentiellement dans les villages. C'est pourquoi le titre. Pour JR, un street artiste réputé pour ses immenses collages en pleine ville sur le village, n'est pas un terrain de jeu favori. C'est plutôt bien un type urbain. Mais c'est le jeu, le trentenaire avec son chapeau, ses lunettes noires et ses baskets, eh bien, emmène la cinéaste octogénaire à bord de sa camionnette studio. Il s'agit d'un véhicule équipé d'un laboratoire photographique et d'une immense imprimante. Pendant 1h30, et c'est bien suffisant, nous allons nous promener à la rencontre d'hommes et de femmes qui sont retraités, serveurs, maçons, agriculteurs, ouvriers, et dont le portrait photographique va s'afficher en grand, soit sur leur lieu de vie, soit leur lieu de travail. Il s'agit de rendre un hommage à des personnes d'un coin connue par la réalisatrice ou JR, et de donner une beauté éphémère à un lieu de vie ou au contraire un lieu abandonné, voire un lieu qui menace de disparaître.
On nous a parlé d'une rue de Coron qui allait être détruite.
On y a rencontré Janine, qui est la dernière habitante de la rue.
Oh bah, je suis la seule survivante du Coron ici. On me mettra pas dehors. Il y a trop de souvenirs, tout ça. J'ai dit, vous ne comprenez pas.
Ce qu'on voulait avec Agnès, c'est saluer Janine, la résistante, en collant son visage sur sa maison.
Alors c'est l'une des premières rencontres hein, que fait le duo, on l'entend, le ton reste enjoué, empreint de comédie, et il faut le préciser, Visage Village est d'abord léger, hein. Il ne deviendra sombre qu'à deux moments, à chaque fois pour un acte mémoriel que l'on doit rattacher à la vie d'Agnès Varda, qui nous avoue quand même que du haut de ses 89 ans, eh bien, elle n'est pas fâchée d'en finir. Alors on se retrouve un moment sur une plage normande devant un bunker que le duo va habiller d'une photo de Guy Bourdin, l'ami photographe de Varda, ce photographe habitait tout près de ce lieu. Une entreprise éphémère car la marée emporte tout. Et puis l'autre moment sombre est celui qui conclut le fil rouge du documentaire, les lunettes noires de J.R. qu'Agnès Varda aimerait voir disparaître. Des lunettes qui lui font penser à celles de Jean-Luc Godard dans Les fiancés du pont McDonald's, un court-métrage de 1961, un court-métrage burlesque de Varda, dans lequel elle fait enlever les lunettes à Jean-Luc Godard car celles-ci lui font voir tout en noir. Le court-métrage est visible alors là, totalement gratuitement sur YouTube. Alors Godard sera un fil rouge du documentaire et le duo va tenter de le rencontrer car après tout Varda et le réalisateur du Mépris étaient amis et sont deux survivants de la Nouvelle Vague. Un moment poignant qui va vraiment ouvrir des blessures. Le duo Varda et JR nous fait part à chaque fois bien des raisons qui l'amènent à rencontrer telle ou telle personne. Dans sa construction, Visage-Village nous montre pour chaque séquence le même processus. La rencontre avec les personnes, la discussion, leur portrait collé en grand format et le regard eh bien, des sujets ainsi photographiés sur l'installation. Entre ces moments, le duo discute du passé, du présent, d'eux, des autres et tente de faire partager eh bien, leur motivation. Leur dialogue est souvent enjoué, je l'ai dit. Ils s'amusent de leur âge, des lunettes noires, ils se taquinent. JR est très fort à ce jeu-là, mais ça peut devenir agaçant, tout comme sa voix, Marine, tu le fais remarquer. Mais bon, finalement, on s'y habitue et puis c'est quelqu'un de plutôt sympathique, ce JR. Visage Village est un documentaire léger, empathique, parfois mélancolique, qui, à mesure qu'il avance, offre une réflexion sur le regard. C'est bien le minimum quand il s'agit de placarder des portraits en grand sur les murs. Alors, je peux donner un exemple. Hein. On voit par exemple donc un agriculteur. Alors, c'est par rapport au sujet qu'ils ont choisi. Il y a un agriculteur qui explique qu'il gère des milliers d'hectares, alors on se dit que c'est sûrement pas bio, mais le duo, alors il trouve ça super et en fait un portrait en grand du bonhomme sur sa grange. Voilà l'exemple d'une installation proposée par JR. Et puis un autre exemple plutôt habile, et ça c'est plutôt la patte de Varda, on va dire, enfin, qui est plutôt une cinéaste des femmes. Ils sont présents avec les dockers sur le port du Havre, et plutôt que de prendre en photo les ouvriers, enfin, du port du Havre, ils prennent en photo leur femme et donc placardent ces grandes photos sur les containers. Donc ça donne des moments assez intéressants malgré tout. Ça passe très vite, ça dure une heure et demie, mais ça passe très très vite. Cela dit, je trouve ça beaucoup moins intéressant, même si je j'aime beaucoup ce que fait JR. Je trouve ça moins intéressant que les glaneurs et la glaneuse, le documentaire des années 2000 qu'avait fait Agnès Varda. Voilà, Visage Village est projeté à partir du 28 juin dans les salles de cinéma.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Et nous passons à l'interview de cette émission.
Oui,
Marine.
Avec Chercher la femme de Sou Abadi. Armand et Leila forment un jeune couple d'étudiants à Sciences Po. Ils rêvent de partir ensemble faire leur stage aux Nations Unies. Lui est le fils d'une famille iranienne qui a combattu la dictature. Elle est issue d'une famille musulmane. Un jour, le frère de Leila revient du Yémen, radicalement transformé, et décide d'éloigner sa sœur d'Armand, qui, pour réussir à la revoir, ne va pas avoir d'autre choix que d'enfiler une burqa afin de se faire passer pour une certaine Scheherazade. Chercher la femme de la réalisatrice Sou Abadi est présentée comme la comédie qui ose. Il est vrai que traité quand même par le biais d'une comédie de la radicalisation religieuse, c'était plutôt casse-gueule, hein, surtout que bon, la comédie française actuelle n'est pas toujours très pertinente lorsqu'il s'agit d'aborder les sujets qui fâchent. Je pense notamment à Bras ouverts par exemple. Pas mal de comédies comme ça sont un peu vautrées ces derniers temps. Ce qui réussit dans Chercher la femme, c'est son parti pris. En se moquant de tout le monde, Sou Abadi n'oublie pas pour autant de dépeindre ses personnages avec bienveillance. Et ça, c'est souvent ce qui est un peu oublié dans les comédies satiriques. Il y a ici une vraie volonté de réconciliation qui est bienvenue. Alors du coup, le film n'évite pas les bons sentiments. Il y a un peu de pathos, surtout vers la fin. Mais heureusement, il y a une distribution qui est vraiment très bonne, que ce soit les personnages adultes, on va dire, comme Anne Alvaro, ou plus jeunes comme Félix Moitié, Camélia Jordana, qui pour moi justement sauvent vraiment le film, qui pourrait être parfois trop justement plein de bons sentiments, et un petit peu naïf et un petit peu angélique.
En tout cas, Sou Abadi va s'expliquer hein, sur le choix de la comédie. C'est quand même une réalisatrice qui vient du documentaire, donc c'était pas forcément facile. Enfin, on le pense, mais pour elle, finalement, elle va l'expliquer, c'était plutôt facile.
Tu crois qu'il va me reconnaître ?
Il est parti 10 mois, pas 10 ans.
Alors ? Je connais plus son frère.
C'est quoi ce nouveau look là ?
Je suis un nouvel homme.
Dieu le miséricordieux a éclairé ma voie.
Faut que tu redescendes, hein, t'es juste un homme du Moyen-Âge.
Putain, il était parti travailler dans un hôtel.
L'idée de ce film, ce n'était pas juste un film, juste une comédie bien sûr. Et c'était aussi de... j'avais la envie que le spectateur en sortant de la salle réfléchisse quand même. Et faire réfléchir les gens à travers une comédie en leur faisant passer un bon moment me semblait plus élégant que de leur marteler encore des idées sous la forme de la tragédie qu'on vit souvent aujourd'hui dans notre société.
Ça va, Fabrice ?
Par contre, Fabrice, c'est fini, maintenant c'est Farid.
C'est mon expérience iranienne qui m'a aidée, bien sûr. Vous savez, j'ai été élevée, j'ai passé de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 11 ans sous la République islamique, et les années les plus dures. Hein. S'il y avait une mèche de cheveux qui sortait, vous étiez arrêté par les miliciens, et surtout les miliciennes.
Attends. Bah, attends, laisse-moi monter.
C'est quoi votre mission ? Guider les gens. Avec douceur et sagesse.
T'es devenu Dalai Lama, quoi. Tu te fous de ma gueule, là ?
Je viens du documentaire. Écrire un documentaire, ça a été toujours dur comme un accouchement pour moi. Et je me disais... écrire une comédie, mais moi qui n'ai jamais écrit de fiction, comment je vais me lancer ? Et quand j'ai commencé, ça a été un plaisir, un pur plaisir. Je faisais ce que je voulais avec mes personnages. j'en faisais ce que je voulais. C'était pas des protagonistes de documentaires qui étaient tels qu'ils étaient. Je pouvais les transformer. Voilà. Et ça a été, c'était d'une fluidité. C'était vraiment un pur plaisir.
Son frère l'a enfermé.
Rends-moi mon portable.
Je sais pas quoi faire.
T'es au courant qu'il y a de la gélatine de porc dans les puces ? Bon appétit.
Ce film est aussi là pour, je pense, réconcilier tous les gens qui regardent la communauté musulmane. Parce qu'il y a une telle crispation aujourd'hui là-dessus que faire un film réconciliateur par le truchement de la comédie, je trouve que c'est vertueux, en fait, ça, au sens propre, quoi. Ça a de la noblesse de faire ça.
Ça peut s'adresser, comme tu dis, aux gens qui regardent l'islam. Et en même temps, ça fait du bien aux musulmans aussi, quoi. Franchement, il y a des gens du monde entier qui s'allient tous pour la même cause. Et en défendant aussi ce Coran-là.
Salam alaikum.
Alaikum salam. Il y a une dame pour toi.
Ah non, ça c'est pas une dame, ça c'est une tante Keshua.
Comment vous appelez-vous, ma sœur ?
Sheherazade.
C'est moi. Tu joues le jeu pendant une semaine.
Tu crois que ça va marcher ?
Il faut. Alors, elle est comment ?
C'est une idée que j'adore et c'est une idée... structurelle de l'idée même de fiction, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que par le déguisement, tout le monde se dévoile. Moi, ça, j'adore cette idée, quoi, que Armand se grime en femme et que finalement, on vienne à défendre Sherazade à l'arrivée, que Mahmoud finisse par enlever sa barbe, c'est-à-dire que tout le monde se dévoile grâce à de la pure illusion. Je trouve qu'il y a un truc un peu magique là-dedans. Et puis, assez shakespearien, Marivaux, voilà. Et Cyrano, effectivement. Ouais. Oui.
Elle sait ce qu'elle veut. Elle plaisante pas du tout avec la religion.
Elle n'est pas comme les autres.
Tu penses constamment à cette fille.
J'aime cette fille.
T'as une mission. On t'a pas envoyé au Yémen là-bas pour faire le tourisme, bronzer sur la plage avec tes pectoraux de chourave, là.
Il y a quand même un leitmotiv, justement, dans cet objet, qui est qu'il y a peut-être presque plus de frontières, en fait, entre le livre sacré et la poésie. Parce que Mahmoud se fait prendre, en fait, pense que Sherazade cite le Coran et en fait c'est le cantique des oiseaux. Bon, et ensuite, l'idée générale reste quand même, si vous ouvrez le Coran, en fait, les copains, vous vous rendrez compte que tout va bien.
Suivez-la, ouais. Je veux savoir où elle habite.
On sera au taquet sur tout ce qui bouge.
Merci Fabrice.
Ok. C'est Farina.
Je voulais juste montrer qu'une autre spiritualité était possible, que le discours religieux musulman ne doit pas être fondé sur le rejet des autres, les non-musulmans, qui sont majoritaires dans le monde quand même. Donc on peut avoir une spiritualité apaisée et autre.
Tu fais sûrement une fixation sur elle parce que ça fait des mois que t'es frustrée sexuellement, mais ça va aller.
Sherazade, c'est décidé. Tu seras ma femme.
Voilà, on écoutait une partie de l'équipe de Chercher la femme, mais une des plus importantes, hein, c'était la réalisatrice. Sous Abadi, il y avait Félix Moati, et on va écouter un peu plus Camélia Jordana, qui n'a pas tant joué que ça au cinéma, et qui nous parlait des rôles qu'elle était obligée de refuser.
Moi, en tant que comédienne, super typée, quoi. Bon, ce qui est chouette, c'est que apparemment, je peux faire à la fois pakistanaise, espagnole, italienne et d'Afrique du Nord. Bon, super. Mais du coup, si vous voulez, ça fait 2 ans et demi que 80% des films que je lis, alors il y a des choses sublimes, il y a des choses qui me touchent moins, mais 80% des choses que je lis, c'est des rôles d'une jeune femme qui a été violée, qui est embarquée par Daesh, qui est afghane, qui est sous une burqa, qui est enceinte de comment il s'appelle, l'autre fou, enfin voilà, et ça ne s'arrête jamais. Et donc lire aussi ça, ça faisait quand même beaucoup de bien. D'autant plus que, encore une fois, c'était avec ce ton-là et avec ce message-là.
Voilà, c'était donc Camélia Jordana. Nous parlions de Chercher la femme qui sort le 28 juin. C'est un film que je recommande. Je trouve que c'est une comédie très rythmée sur un sujet qui peut être casse-gueule, mais finalement. Alors, je sais que certains, j'ai entendu ça, reprochaient le côté islamophobe. Mais en même temps, la réalisatrice, comme on l'a entendu lors de l'interview, elle a vécu ça en Iran. Enfin, voilà, donc elle est un peu légitime de parler de ce que peut produire. L'islam, en tout cas. Enfin, l'islam dans sa partie la plus radicale. Nous allons terminer cette émission avec deux autres films.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Oui, et on passe à Grand froid de Gérard Potonnier. Eddy et Georges travaillent pour le compte de Edmond Zweck, qui a monté son entreprise de pompes funèbres. Pour lui, c'est simple. Seuls deux métiers sont vraiment indispensables dans la vie, sage-femme et croque-mort. Entre les deux, les gens se débrouillent. Seulement voilà, dans la petite ville où est installée l'entreprise Zweck, malgré la grande vague de froid qui ne veut pas s'arrêter, les affaires vont mal. Plus aucun mort à déplorer ni à enterrer, et l'entreprise menace de faire faillite.
Maison Zweck, bonjour. Ah, je vois, mes sincères condoléances. Mais vous avez peut-être un jardin, madame? Si vous avez un jardin, vous devez avoir une pelle. Dans ce cas, ce que je vous conseille, madame, c'est de le faire vous-même. Ah, une boîte à chaussures suffira. Voilà, madame, encore désolé. Au revoir, madame, au revoir. Tu sais où tu peux te le foutre, ton chihuahua de merde, connasse?
Alors finalement, une bonne nouvelle arrive, un certain Simon meurt et tout le processus cérémonial peut à nouveau se mettre en marche pour la plus grande joie des employés. Mais naturellement, rien ne va se passer comme prévu et le corbillard censé amener le défunt jusqu'au cimetière va se retrouver pris dans des rebondissements inattendus. Alors le film commence sur le ton de Vénus Beauté Institute, trois personnages enfermés sur leur lieu de travail, dans une ambiance de fête de fin d'année, chacun avec ses rêves, ses frustrations, ses envies. Et le casting sert très bien l'histoire, un casting composé d'Olivier Gourmet, Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri.
Je peux vous demander un truc deux secondes?
Oui, vas-y.
Ma principale qualité, d'après vous, c'est quoi? Si vous aviez un mot ou deux... pour parler de moi en bien. Georges, c'est quelqu'un de... qui est merci. Vous m'avez bien aidé.
Voilà, donc ça c'était le personnage de Georges, de Jean-Pierre Bacri, qui se dit qu'il n'a jamais pu se payer une maison dans sa vie, mais qu'au moins, et ben déjà à 60 ans, il a prévu de s'acheter une magnifique tombe. Mmh. Et donc là, en fait, il cherche l'épitaphe qui va pouvoir orner cette tombe, parce que comme ça, il se dit qu'au moins, dans la mort, et ben il sera respecté et il aura une super dernière demeure.
Il veut une belle tombe pour qu'on dise, mais finalement...
Bah, que ce mec a réussi, oui. Quoi, voilà. Mmh. Et puis donc, eh bien voilà, assez vite passé cette introduction, eh bien le réalisateur Gérard Potonnier ajoute ça et là quelques éléments totalement surréalistes à l'histoire, juste assez pour volontairement perdre le spectateur qui ne sait plus à quel cinéma se vouer. Il parvient à déjouer nos attentes en convoquant divergents cinématographiques, sans jamais aller plus loin que la suggestion, ce qui aboutit finalement à un film ovni, un peu dérangeant, mais de très bonne facture, d'autant que la photographie pardon, est plus que maîtrisée. Alors seul léger bémol, hein, Gérard Potonnier a d'abord fait ses armes à la télé et surtout dans la pub, et ça se sent parfois un peu trop, car il utilise les ralentis de façon, il est vrai, intempestive. Mais ce qui est agréable et très novateur, j'ai envie de dire, c'est que le scénario ne prend pas les spectateurs pour des décérébrés. On croit dès le début deviner les rebondissements de l'histoire, et en réalité, on se trompe systématiquement. Le scénario ne suit aucune continuité logique. Il est régi selon des principes décalés, voire surréalistes, qui lui sont propres. Le film et les multiples rires dans la salle étaient là pour le prouver, est très drôle, mais son humour absurde le rend totalement impossible à cerner. Alors certes, on se demande souvent où ça va, mais ma foi, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre et qui a vraiment le mérite d'être surprenant. Et puis c'est pas long, donc au moins si vous n'aimez pas, ça sera pas très douloureux, ça ne dure qu'une heure 25.
Et puis grand froid pour un début d'été. Pour un début d'été,
et franchement, je peux vous dire que c'est rafraîchissant. Hein. Ça a été tourné en Pologne, donc on voit de la neige pendant une heure et demie. Voilà.
Avec la clim qui arrive sur le siège, c'est parfait. Et ça sort le 28 juin, grand froid.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Autre film qui sort le 28 juin, c'est The Last Girl.
The Last Girl, the last film hein, de Cinérama. En fait, le titre original, je crois que c'était The Girl with a Gift.
Et, oui, mais c'est trop...
Oui, voilà, oui. C'est un peu bizarre. Voilà,
il vaut
voilà.
Mieux refaire un,
filles, titre cadeau,
anglais, un titre en anglais. Pour,
et ils ont mis un sous-titre français, celle qui avait un don. Enfin bon, c'est un peu étrange quand même. Hein. Alors, des enfants immunisés contre un terrible virus qui menace l'humanité d'extinction sont retenus dans un camp militaire. Alors, bien que se nourrissant eux aussi de viande humaine, ces enfants éprouvent des sentiments. Ils sont donc ils sont essentiels à la recherche menée par le docteur Caldwell, biologiste, afin de trouver un vaccin capable de sauver l'espèce humaine. Mais une petite fille, Mélanie, sort du lot, dotée d'un esprit brillant. Elle est très attachée à l'enseignante, Miss Justinio. Alors, quand le camp est subitement attaqué par les zombies, le petit groupe tente de survivre dans une Grande-Bretagne en ruine. Mélanie devient pour eux alors une précieuse aide. Alors comment, en 2017, renouveler un genre dont les ressources esthétiques et narratives semblent épuisées jusqu'à l'os? Le film d'infectés ou de zombies hein, n'a jamais été aussi populaire que durant ces 10 dernières années. le succès de Walking Dead, notamment, hein, n'étant pas étranger à l'affaire. Alors évidemment, sans refaire l'historique du genre, personne ne fera jamais mieux que George Romero, véritable démiurge en la matière avec sa mythique trilogie indétrônable, démarrée en 68 avec La Nuit des Morts Vivants et bouclée en 86 avec Le Jour des Morts Vivants. Et c'est bien à ce dernier que l'on songe en visionnant The Last Girl, qui tente d'échapper aux stéréotypes de la majorité des films d'infectés. Alors j'ai bien dit qu'il tente, car si le film de Colm McCarthy est honorable, il n'a rien non plus de révolutionnaire, trop attaché à remplir un cahier des charges qui commence à devenir exaspérant. Alors du gore, des zombies qui courent, une poignée d'hommes en lutte contre des morts vivants, bref, on n'a rien de spécialement original. Hein. Alors ce qui le rend tout de même intéressant, voire même attachant, réside essentiellement dans le personnage ambivalent de Mélanie, enfant surdouée d'une intelligence hors du commun, mais qui peut aussi laisser éclater une sauvagerie brutale rappelant sa véritable nature, celle d'une infectée ayant développé une humanité et parvenant la plupart du temps à se maîtriser. Je dis bien la plupart du temps, parce que quand elle s'acharne contre les militaires, parfois ça dépote pas mal, hein, niveau gore surtout. Alors en revanche, le conflit qui anime les militaires bornés souhaitant exterminer tous les morts vivants et les scientifiques soucieux de les garder en vie pour sauver la race humaine n'est pas exempt de certains clichés. Alors si le scénario est pétri de bonnes idées et si certaines séquences sont impressionnantes, souvent liées en grande partie en fait à une utilisation pertinente d'un décor ravagé, il manque à cette série B un vrai regard de cinéaste. La mise en scène, elle est trop fonctionnelle, ne décolle jamais vraiment. Le film alterne vision post-apocalyptique, spectaculaire avec horde de zombies investissant un univers citadin en ruine et réflexion plus intime sur la nature profonde de l'homme. The Last Girl trouve difficilement l'équilibre entre ses aspirations un peu de film d'auteur et le respect des codes. Alors au final, c'est surtout le rythme qui en pâtit, l'ennui s'installant parfois, le film dure près de 2 heures, pour ce type de film ça me semble trop long, alors notamment lors d'un deuxième acte proche du survival là, qui demeure d'une banalité confondante. La fuite des militaires et scientifiques traqués par des zombies, ça commence sérieusement à dater. Alors les choix esthétiques sont aussi curieux, inégaux, la photographie est parfois au service de plans magnifiques, souvent aériens d'ailleurs, et à d'autres moments, elle trahit une facture télévisuelle avec ses couleurs bien fades. Alors il manque au film un vrai climax de terreur pour être à la hauteur des classiques cités. Alors lauréat tout de même du Grand Prix à Gérard Maire et puis de plein d'autres prix il me semble, The Last Girl possède suffisamment de qualité pour sortir du lot des productions à la chaîne. Il arrive juste un peu tard car au final cette relecture posée de Resident Evil s'avère nettement plus intelligente que la série de navets réalisée par Paul W. Anderson. Et puis la direction d'acteur est remarquable, d'autant qu'avec un budget de 5 millions de dollars, les auteurs se sont payés le luxe d'un casting original, Glenn Close entre autres, aussi Gemma Arterton et Paddy Considine, un acteur anglais qu'on avait vu dans notamment le Shaun of the Dead, enfin les films d'Edgar Wright. Alors ce sont de solides comédiens, pas forcément en plus associés au genre. Alors Colm McCarthy signe donc un second long métrage de ciné après Outcast, mais il a surtout derrière lui une solide expérience de réalisateur de séries, notamment Sherlock Holmes, Doctor Who ou encore les Tudors. Alors un réalisateur à suivre malgré tout pour un film, je dirais, honnête, mais sans plus.
Bon, on va en écouter juste un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance.
Il était une fois une femme magnifique. Cette femme était aussi la plus gentille, la plus intelligente et la plus incroyable de toutes.
Non, je vous en prie, faites pas ça!
Un jour, elle fut tout à coup attaquée par un monstre. Et une fille accourut à toute vitesse. Elle combattit le monstre. Elle le terrassa.
Mélanie!
Tu es ma meilleure amie. Et tu vas rester pour toujours avec moi.
Voilà, The Last Girl, sur les écrans, le 28 juin.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Puisque nous parlions de portraits avec le visage village, évoquons celui d'Audrey Tautou, plus exactement des autoportraits. Depuis son plus jeune âge, l'actrice fait de la photo en restant dans la technique argentique. Et pour la première fois, ces tirages font l'objet d'une exposition pendant les rencontres d'Arles qui se déroulent du 3 juillet au 24 septembre. Son truc à Tautou, c'est de faire des images dans son coin. Elle se place devant l'objectif par le biais de jeux de miroir avec des mises en scène travaillées et non sans humour. Alors on nous dit qu'elle se joue de son statut de célébrité et en devenant son propre modèle, je dirais plutôt qu'elle s'amuse. On verra aussi donc des photos de journalistes l'interviewant. Le New York Times a publié quelques clichés sur son site internet et j'avoue que ça m'a plutôt intrigué. Donc ça, c'est à voir aux rencontres d'Arles qui se déroulent donc du 3 juillet au 24 septembre dans la ville des Bouches-du-Rhône.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va contrôler qui est, qui est, qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est, qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Eh oui, c'est trop tard, on se retrouvera à la rentrée. On vous conseille d'aller voir 120 battements par minute, qui sortira le 23 août, on n'aura pas le temps d'en parler. Voilà. Eh bien, un bel été.
Bel été à vous.